Bonsoir à vous qui nous suivez, nombreux à N'Djamena, Kinshasa et même Abidjan. Il est 18h05 en temps universel et Kabadou au micro de Studio 9 de la Voix de l'Amérique. Et nous parlons dans votre émission interactive aujourd'hui des pénuries en tout genre qui sévissent en Afrique. Pour certains il s'agit d'eau, pour d'autres de carburant, de gaz et bien souvent de denrées alimentaires. Il y a quelques mois, l'ONU a même publié un rapport pour alerter concernant les pénuries alimentaires dans la région précisément du Sahel. Selon ce rapport, des millions de personnes au Burkina Faso, au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal luttent pour subvenir à leurs besoins quotidiens et sont confrontées à une extrême vulnérabilité et des difficultés croissantes. Alors que pensez-vous de cette situation? Existe-t-il des pénuries dans votre pays? Comment faire pour remédier à ce problème? C'est de cela dont nous allons parler ce soir. Et un seul numéro pour participer, le 001 202 205 26 33. Vous avez également la possibilité de laisser votre numéro de téléphone en amont sur la page Facebook VOA Afrique. Et c'est ce qu'a fait notre premier auditeur qui s'appelle Christian Djarabé et qui est au Tchad. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, je vais bien.
Alors, quel est le témoignage que vous voulez nous apporter ce soir dans l'émission?
Oui, par rapport au rapport, ce rapport est tout à fait crédible parce que ce que nous disons actuellement montre que le rapport de Nations Unies est tout à fait normal.
Alors, vous dites tout à fait normal. On a un auditeur du Tchad qui nous a écrit, qui s'appelle Lamine Mahamat, et il dit ceci. La pénurie existe partout en Afrique, mais pour mon pays, le Tchad, ce sont surtout les régions du Nord qui souffrent plus particulièrement. Êtes-vous d'accord?
Oui, c'est tout à fait normal. C'est la région du Nord qui souffre de pénurie. Actuellement, nous souffrons de pénurie de gaz.
Alors, que faire selon vous pour remédier à ce problème de pénurie?
Il faut la volonté de nos dirigeants. C'est eux qui doivent en surmonter cette pénurie. S'ils n'ont pas la volonté politique, c'est pas facile de surmonter à cette pénurie de gaz.
Alors, on note, selon votre avis, la volonté aussi des politiques. Un autre auditeur, lui, parle, donc il s'appelle Roli. Il dit ceci, les pays du désert, les pays du Maghreb et d'autres zones sont aussi parfois dans la pénurie, mais arrivent quand même à travailler le sol. Alors, vous, que pensez-vous qui peut être également fait par la population pour sortir de la pénurie?
Pour sortir du pénurie de denrées alimentaires, il faudrait que la population aussi s'active dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Et sans ça, nous ne pouvons pas enchaîner la pénurie de denrées alimentaires.
Merci beaucoup, Christian Djarabé, d'avoir participé à l'émission et d'avoir partagé votre avis. Surtout, hein, c'est votre émission, une émission interactive, à votre avis. Et on a maintenant l'avis d'Aruna Baldé, qui est à Dakar au Sénégal. Bonsoir, Aruna. Aruna, il y a beaucoup de bruit autour de vous, donc n'hésitez pas à bien parler en mettant votre bouche près du combiné. Donc, quel est le témoignage que vous voulez nous apporter du Sénégal concernant la pénurie? Ou les pénuries, hein, tout dépend des cas. Alors Aruna, on essaie de vous rattraper. En tout cas, le commentaire que vous disiez, c'était dans mon pays, le Sénégal, malgré les efforts des autorités étatiques, le danger est toujours là. Une sécheresse de plus en plus inquiétante, surtout dans le nord du pays où la population rencontre une pénurie d'eau et aussi des problèmes pour se nourrir. Alors si vous voulez participer, n'hésitez pas, nous parlons des différentes pénuries auxquelles nous pouvons être confrontés. Et un seul numéro, le 001 202 205 26 33. Et nous avons l'avis d'un auditeur qui est donc au Gabon. Il s'agit de Davy Akumbu. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, quel est le témoignage que vous pouvez nous apporter du Gabon?
Le témoignage, il faut reconnaître qu'au Gabon, à l'intérieur d'autres pays, hein, à travers le monde aussi, connaît les difficultés de pénurie alimentaire.
Et pourtant, vous avez un sol très fertile au Gabon, hein. C'est
oui,
connu.
Malheureusement, nous avons, malheureusement, le Gabonais, ou alors, je dirais, permettez-moi l'expression, de la classe dirigeante de l'époque n'a pas permis aux Gabonais de s'intéresser beaucoup plus au sol, puisque nous étions un pays béni de Dieu avec le pétrole, le manganèse, l'uranium, bref. Et beaucoup, avec une population qui, à peine arrive à 1 million d'habitants, chacun avait un rêve de penser qu'avoir un bureau climatisé, avoir un véhicule climatisé à un salaire garni à banque. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les effectifs de la fonction publique, contrairement à ce qu'on pense, ils sont beaucoup quadruplés par rapport à l'offre et la demande. Donc, le secteur agricole est le parent pauvre. Or, maintenant, avec le nouveau pouvoir actuel, il essaye de mettre des mécanismes en place pour essayer de renverser la tendance. Mais malheureusement, la mayonnaise ne prend toujours pas parce que tout simplement, le Gabonais, permettez, encore une fois, n'était pas habitué à ce genre de travaux qui trouvaient à l'époque, puisque le pétrole montait tout le monde à la tête, le manganèse montait tout le monde dans les mains, l'uranium était dans la tête de l'État, et n'oubliez pas le bois qui faisait partie aussi d'une richesse. Les Gabonais ne s'intéressent pas, malheureusement, au secteur de l'accord.
Alors, ils ne s'y intéressent pas, et comment faire, selon vous, pour qu'il y ait une évolution des mentalités?
Bien, il faut avoir des politiques volontaristes de façon claire, c'est-à-dire qu'il faut une exigence qu'ils vous mettent en place des politiques en place pour essayer de... Parce que je vois, ici, il y a un programme qui a été lancé par les autorités de la place, le programme CREI, qui malheureusement a de la peine à prendre parce que, là encore, il faut, un, la formation, deux, apprendre, enlever dans l'esprit de l'homme gabonais que où on attendait la rente du pétrole est révolue et que l'agriculture, c'est le pétrole vert parce que la terre ne ment pas.
Alors, le pétrole vert au Gabon, une possibilité à ne pas du tout négliger. Merci beaucoup, Davy Akumbu, d'avoir partagé avec nous votre avis. On va en prendre un autre du côté de Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec Ben Benoît. Bonsoir.
Bonsoir, la radio de l'Amérique Afrique, et bonsoir à tous les auditeurs de la radio du monde.
Alors, nous sommes, oui, effectivement, sur VOA. Quel est votre avis concernant le sujet du jour?
Bon, par rapport à la thématique du jour, je vois très bien que pour se remettre la radio en train vraiment de s'imprégner de tout ce qui se passe dans le monde. C'est à cause de cela que vous arrivez à reléguer de telles thématiques. Moi, personnellement, j'arrive à me demander d'abord pourquoi je tenais à NRD par rapport à la thématique du jour. J'aime bien aller vivre esclave aux États-Unis ou en Europe et d'être chez nous chez NRD. Parce que
alors, esclave est un mot très fort, hein? C'est un mot très très fort, oui, que vous venez d'employer. Vous préférez être esclave, oui, à l'étranger que rester en République démocratique du Congo. C'est bien cela.
Oui, oui. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir chez nous, c'est comme si nous sommes déjà morts, mais alors que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Et je manque même de termes à utiliser. Même quand notre nouveau régime qui vient de s'introduire ici, tout ce qu'ils ont parlé, tout ce qu'ils sont en train de faire, tout ce qu'ils sont en train de dire, vraiment c'est très alarmant. Et ça demande même que nous puissions s'exiler. Si vous regardez bien, même les exilés qu'on a demandé par le nouveau chef de l'État de revenir dans notre pays, à cause de tout ce qui se passe dans des fonctions publiques et partout ailleurs, vous verrez que ces gens-là n'aiment pas retourner dans notre pays à cause de misère, qu'ils sont en train de voir de calamité. C'est vraiment des cacophonies. Ce qui passe vraiment dans notre pays, c'est vraiment, si même vous arrivez ici, vous trouverez que non, vous serez le mieux vivant que nous, les autochtones de ce pays. À cause de quoi nous sommes marginalisés, c'est juste des gens en vin, ces cravates en rouge qui s'emportent les têtes de la vie. Et nous, de petits peuples, nous sommes là comme des souris, des rats, et on nous piétine avec leurs souliers, et c'est ça la vie.
Alors, on entend bien votre cri du cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour que la tendance puisse changer et que ce pays, hein, qui est la RDC, qui est connu pour son sol fertile et toutes ses bénédictions naturelles, puisse vraiment servir à la population?
Oui, hein. La première chose, c'est la volonté de nos dirigeants, de nos autorités, de nos excellents. S'ils ont vraiment la volonté, je crois que tout va bien. Mais s'ils n'ont pas la volonté, nous finirons toujours par mourir en train de vivre, en train de marcher comme ça, mais nous sommes déjà morts. Et de deux, nous devons aussi s'imprégner de notre valeur, hein, léguée par nos aïeux. Mais nous sommes beaucoup plus de tout ce que les Occidentaux sont en train vraiment de nous dicter. C'est-à-dire que la volonté puisse parler à la place des Occidentaux. Et l'amour du patrie. Voilà un peu ce qui est comme conclusion de...
Merci Ben Benoît. Merci Ben Benoît. L'amour de la patrie, qu'en pense un autre compatriote de RDC? Il s'agit de Trésor Kazadi. Bonsoir.
Oui, allô, bonsoir.
Alors, vous avez comment pu entendre... Je vais bien, merci. On a pu entendre un autre auditeur. Est-ce que vous partagez le même avis?
Ok, ça va, je peux partager. Alors, je commence à celle qui me concerne.
Oui.
Je vois dans notre province, uniquement dans la province de Kasaï Oriental, c'est tout à fait vulnérable, car il faut prendre une mesure vitale qui pourrait amener le peuple à bien vivre et amener encore le pays à valeur. Notez bien, il faut qu'à chaque pays vit dans la bonne position pour éviter les vols. Toujours dans notre province, les taximens achètent souvent un litre d'une essence à bas prix à 2500 francs congolais. Aujourd'hui, ils achètent un litre d'une essence à haut prix, donc à 4500 francs congolais.
Ah oui, ça a beaucoup augmenté.
Il faut décortiquer cette initiative. Quelle est la différence qu'il y a-t-il là-bas et comment les peuples peuvent-ils vivre? Et quelles sont les mesures efficaces que les autorités peuvent-ils prendre pour régler tout le mal? Alors, c'est pourquoi c'est un mauvais prototype qui hisse de dire que les peuples sont en train de vivre à mal. C'est pourquoi les autorités elles-mêmes peuvent d'abord prendre les bonnes mesures. Alors ailleurs, il faut que les présidents de différents pays qu'ils puissent connaître que c'est le peuple qui est plus important que l'argent. On ne peut pas aimer l'argent tant que le peuple qui t'a choisi qui laisse d'obéir à leur engagement.
Merci beaucoup, Trésor. Merci, on a bien compris votre message. Un autre commentaire de République démocratique du Congo qui est d'Ernest Kalonda. Ces pénuries sont très très persistantes en République démocratique du Congo dans lequel il y a tout, mais l'État ne se prend pas en charge. Alors, nous avons une auditrice au Mali. Il s'agit de Mariam Koulibaly. Bonsoir, comment allez-vous?
Oui, bonsoir Kia, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, est-ce que vous avez déjà été, entre guillemets, victime? Est-ce que vous avez déjà pu voir, constater des pénuries au Mali?
Kia, effectivement, moi je veux parler d'un cas un peu particulier.
Oui.
Je suis dans l'alimentation, je suis dans tout ce qui concerne les biens mangers.
Oui.
Donc, la volaille, les moutons, et les bœufs et tout ce qui se mange. Souvent, on a pénurie de poulet. Le poulet de chair, il est importé. Soit il vient de la Mauritanie, du Maroc, des États-Unis. Les petits poussins, ils viennent de la France, du Brésil, de l'Italie. Et souvent, le poulet, il manque. Parce que le poulet de chair, il ne supporte pas la chaleur africaine. Donc, on est en avril. En ce moment, il y a pénurie de poulet.
Ah oui, c'est une période où il fait extrêmement chaud au Mali, effectivement.
Voilà, aujourd'hui, il fait 48 degrés à Bamako.
Ah oui.
Donc, tous les producteurs qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne sont pas costauds financièrement, ils se retirent de la production de volaille. Parce que les poulets, quand ils ont un mois, ils font 1,2 kg.
C'est
à
petit.
À partir de 1,1 kg, les poulets, ils commencent à s'engraisser. Avec la graisse, ils ne peuvent pas supporter la chaleur. Ils marchent un peu, ils meurent. Ils sont dans la basse-cour, ils meurent. Donc, ça nous fait beaucoup de peine en avril, mai et juin.
Alors, restez avec nous, Mariam Koulibaly. Nous allons poursuivre votre témoignage. On va en écouter un autre. Et il vient de Hassan Omar, pardon, qui est à Djibouti. Bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs, aux auditrices aussi. Hein.
Merci. Alors vous, à Djibouti, est-ce que vous avez déjà été témoin d'une pénurie particulière?
Oui, effectivement, ça existe. C'est un cas qui est souvent dû. Donc, on y trouve pas. La pénurie, c'est quelque chose qui est généralisé en Afrique. Il y a tellement ici, il y a le problème du lait. Donc, il y a le problème d'une pénurie de lait, la consommation. Donc, c'est un problème qui existe. La pénurie, c'est un problème qui existe partout en Afrique. Mais le problème, c'est moi je dis, c'est d'ordre politique, parce qu'il n'y a pas une volonté politique pour voilà apporter des solutions dans ce sens-là. Souvent, le gouvernement, donc le chef d'État ou le politique en Afrique, d'abord veulent bénéficier tous les bénéfices du pays. Donc ils ne se soucient pas voilà le problème de la population. Donc les citoyens ordinaires, qui voilà, il prend en patience ses mots ou ses mal. Donc c'est un problème qui existe, mais si on trouve une solution politique et que les politiques travaillent de main d'œuvre, en fait travaillent d'arrache-pied pour apporter des solutions, on peut trouver. Alors, prenons l'exemple, par exemple, la RDC,
oui.
C'est un pays qui a toutes ses ressources, donc qui pénurie toute l'Afrique, tout le continent africain. Mais nous avons ce problème des guerres, de, voilà. Et tout ça, donc, c'est dû à, voilà, à manque de volonté politique, mais on espère que dans l'avenir, que l'Afrique doit avoir l'autosuffisance alimentaire et aucun Africain ne doit mourir à cause de la faim ou de la famine. Et il n'y aura pas de gens qui, voilà, qui auront de la malnutrition, surtout au bas âge, c'est-à-dire à l'enfance. Et on espère que l'Afrique va avancer dans les prochaines.
Merci beaucoup Hassan Boulalé. Je rappelle pour les personnes qui prennent l'émission de cours que nous parlons des différentes pénuries qui peuvent exister dans vos différents pays. Et si vous voulez participer, un seul numéro, le 001 202 205 26 33. Toujours Reki Abadou pour vous accompagner jusqu'à 18h30 en temps universel. Mariam Koulibaly, je reviens vers vous. Notre précédent auditeur a parlé d'autosuffisance. Comment, selon vous, atteindre l'autosuffisance au Mali, par exemple?
Bon, moi, je pense que pour atteindre l'autosuffisance, pour la combattre, il faut que le gouvernement et puis les gens qui se suffisent financièrement fassent un effort. Le gouvernement, il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des écoles de production alimentaire. Il y a une école au Mali qui ne fait que l'élevage et l'agriculture. Chaque année, il y a au moins 1000 élèves qui sortent, qui finissent leurs études. Ils sont là, ils n'ont pas de projet élaboré. Même s'ils ont des projets, ce n'est pas financé. Le gouvernement ne fait aucun effort. Ceux qui ont beaucoup d'argent qui sont là aussi, et ils ne font pas quelque chose pour aider ces jeunes qui viennent de finir. Et ces jeunes aussi, ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas l'initiative de créer des projets et de chercher auprès des banques ou sinon auprès du gouvernement un financement. Donc il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus, mais tant que les gens ne s'unissent pas, tant que les gens ne réfléchissent pas, tant qu'il n'y a pas de réunion, de conférence, de séminaire pour organiser et des trucs pour aider les jeunes, et que ce sera un peu difficile en Afrique.
Alors, restez avec nous. On a des commentaires qui vont aussi dans votre sens. C'est le cas d'Éric Gauzet qui est en Côte d'Ivoire. Oui, mon pays fait face à ce genre de pénurie. L'État a abandonné le peuple. Le peuple fait de l'État son décideur et cela est dangereux. Nous avons besoin d'apports matériels et non des vivres pour connaître comment cultiver. Il faut former et chercher de vrais partenaires au lieu d'être mendiants, car cela ne suffit pas. Alors, nous allons donner la parole à un prochain auditeur dont je n'ai pas entendu le nom. Vincent Seounou, bonsoir.
Oui, bonsoir, cher journaliste.
Alors, vous êtes au Bénin, c'est bien cela?
C'est bien cela, je suis au nord du pays. Du Bénin, je suis à Parakouatelma.
Alors, quel est le témoignage que pouvez-vous nous apporter du Bénin?
Bon, écoutez, tout n'est pas nickel, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas aussi des pires qu'on constate, parce que depuis des régimes passants, on n'assiste pas à ce genre de choses, surtout la pénurie de l'eau, la pénurie d'essence, la pénurie alimentaire. Et, mais au nord, ici, actuellement, où j'habite actuellement, vraiment, il n'y a pas de l'eau au nord. Il n'y a pas de l'eau au nord. Tout la population du nord se plaint chaque fois de l'eau. Et voilà, actuellement, on fait appel aux ONG, aux autorités locales et aussi aux autorités administratives, mais on ne trouve pas de satisfaction jusqu'à présent concernant spécialement pour la pénurie de l'eau. Mais pour appel d'essence, parce que c'est le Nigeria qui nous nourrit. Mais quand il y a quelques incidences, par exemple, quand il y a une élection au Nigeria ou bien à l'approche des fêtes de fin d'année ou bien la fête de Kenya ou ici au Bénin, on assiste aussi à cette pénurie d'essence. Mais la pénurie alimentaire, quand il y a la saison n'est pas aussi très rose, c'est-à-dire quand les rendements ne donnent pas, aussi on assiste à cela. Mais cela ne nous dit rien parce que nous avons tellement de choses à notre portée pour pouvoir subvenir à nos besoins alimentaires.
Alors, ces nombreuses choses pour subvenir aux besoins alimentaires, c'est quoi par exemple?
nous avons les maïs, nous avons aussi les manioc pour pouvoir faire les garis, nous avons aussi l'haricot, nous avons aussi bien des choses, et aussi l'igname aussi, l'igname du Nord. Le Nord nous nourrit, le Nord spécialement et aussi le centre nous nourrit. Nous avons les maïs du Nord, les tomates du Nord, bien d'autres choses qui nous nourrissent vraiment ici au Bénin aussi. Nous avons aussi les sorgho, les mil. Pour ceux qui consomment ces aliments-là dans les régions respectives. Et aussi, par exemple, le sud, par exemple, on mange tout. Le nord, par exemple, ils mangent des ignambes, du sorgho et bien d'autres. Et vraiment, ça se passe énormément. On ne craint pas pour la pénurie alimentaire ici au Bénin.
Alors ça, c'est intéressant de savoir ça, parce que finalement, vous nous expliquez qu'il y a quand même pas mal d'alternatives, un problème au nord par rapport à l'eau. Comment faire, selon vous, pour résoudre ce problème d'eau?
Concernant la pénurie d'eau, chaque fois, c'est-à-dire quand il y a la coupure de l'eau, vraiment, le nord compte de l'eau. Parce que ici, bon, la terre aussi est très profonde, très profonde, que on ne peut pas faire même les forages. Et aussi l'eau qui sort du sous-sol aussi n'est pas une bonne eau comme l'eau du sud. Donc il a fallu l'intervention d'eau potable pour pouvoir consommer et boire bien d'eau ici au nord. Donc, comme je suis aussi un témoin oculaire, aussi un témoin auditif pour tout cela, pour tous ceux qui m'écoutent actuellement, il faut savoir que le Nord actuellement, l'eau vraiment est un problème capital pour eux. Nous avons sollicité des autorités en charge de toutes ces choses. Mais ils nous contribuent, mais c'est aussi insuffisant. C'est aussi insuffisant. Et aussi, nous voulons aussi les personnes de bonne moralité pour pouvoir nous aider à boire de l'eau potable. Parce que la distance qui quitte autour nous pour Parakou aussi est très dense. Mais si ici, dans la bouche, ici, on ne nous aide pas, nous pouvons attraper des maladies vraiment qui vont nous créer beaucoup de choses.
Oui, voilà. L'importance de l'eau potable, c'est vrai. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir partagé avec nous votre avis. De nouveau, Aruna Baldé, vous avez pu entendre ce problème d'eau, hein, dont vous avez signalé dans votre commentaire Facebook, cette difficulté qu'on peut rencontrer également au Sénégal. Comment faire, selon vous, pour permettre que ça puisse mieux fonctionner et qu'on puisse travailler de façon à avoir de l'eau, même de façon artificielle, pour pouvoir cultiver?
Bonsoir madame. Voilà, moi je dirais très rapidement, il faut une volonté politique. Quand je parle de volonté politique aujourd'hui, il faut dire que l'État a les moyens de construire les forages, les châteaux d'eau en quelque sorte dans les villages les plus reculés du pays pour permettre aux populations locales d'accès à l'eau potable. Surtout aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple du Nord qui souffre de tous les mois pour avoir de l'eau potable, aujourd'hui l'État aurait dû orienter sa politique vers cette situation-là, c'est-à-dire de faire construire des châteaux d'eau, des pompes un peu partout à travers les villages pour pallier vraiment à cette situation, vu que le Sénégal a moitié à l'océan, c'est-à-dire l'océan est à côté.
Merci beaucoup, on a entendu votre message, hein, qu'il y ait plus de volonté politique. Un dernier auditeur, Bakary Keïta, bonsoir. Bakary, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Alors, très rapidement, quel est votre avis concernant les pénuries? Comment faire pour éviter tout type de pénurie?
D'abord, il va falloir que le gouvernement déploie quand même beaucoup de forages en créant quand même des forages dans les lieux vraiment publics. Et aussi, ce que j'ai constaté au Mali, quand même, les forages sont en train de sortir quand même sous la terre, quoi, avec l'appui quand même des Indiens. Et ils font quand même les forages à vil prix. Donc ça peut juguler vraiment la pénurie vraiment d'eau. Sinon, souvent, on peut faire une semaine ici à Bamako, actuellement dans certains quartiers, sans pouvoir quand même que l'eau ne vienne pas dans les robinets. Donc les châteaux quand même sont les bienvenus. Donc le gouvernement doit s'atteler vraiment dans ce domaine, parce que l'eau, c'est la vie.
L'eau, c'est la vie. Merci beaucoup pour cette conclusion, Bakary Keïta. Merci à tous les participants. Un grand merci également à l'équipe technique composée aujourd'hui, entre autres, de Joselle Morissin et Firmin Max Koyaweda. Merci infiniment pour votre écoute et excellente suite de programme à l'écoute de VO Afrique.